Amis de Radio Occitanie de la Poésie, bonsoir, les poètes, une émission de Claude Bretin et Christian Saint-Paul. Alors ce soir, nous allons recevoir un de nos habitués maintenant de cette émission, puisqu'il s'agit d'un écrivain toulousain qui est ici chez lui,
Presque.
presque. Il s'agit de Jean-Luc Doucet. Alors Jean-Luc Doucet, qui est un biographe, qui a l'habitude de nous régaler avec des personnages véritablement hors série, en tout cas d'une grande originalité, eh bien, vient ce soir nous parler de son dernier livre, Le magicien était un aventurier. Il s'agit de la biographie de ce que nous appelons ici à Toulouse le commandeur Cazeneuve. Alors nous en parlerons dans quelques instants. Je voudrais simplement dire que j'ai été lycéen au lycée Berthelot, j'habite Rangueil, et que pendant donc mes 2 années où j'étais lycéen à Toulouse, eh bien, je passais devant la maison du commandeur Cazeneuve 4 fois par jour. Et j'avais.
C'est en passant moi-même devant cette
Ah oui.
maison que je me suis posé la question de
Savoir
savoir à
ce que,
qui elle
voilà
était
qui elle était. Voilà.
et ce
Oui.
qu'elle faisait là,
Oui.
mitoyenne à un grand immeuble.
Voilà. Alors, elle est mitoyenne. Pour les Toulousains, cette maison est Grande Rue Saint-Michel, à l'angle du boulevard des Récollets, et elle est mitoyenne avec. Alors, elle est écrasée par un
Oui.
très grand immeuble qui a été construit dans les années 60-70 par l'ancien maire de la ville de Toulouse, Louis Bazergues. C'est un immeuble Louis Bazergues, le
Ah,
grand
d'accord.
immeuble. Voilà. Et alors, il y a cette espèce d'îlot extraordinaire, cette maison coloniale. Qui nous intriguait beaucoup, nous lycéens, quand on partait en groupe. Et donc, on arrivait à 4 ou 5, et bien entendu, on était très intrigués par cette maison qui est très belle, qui est
C'est
maison
un peu public,
coloniale.
c'est-à-dire, oui, voilà,
C'est
style
vraiment
colonial avec une petite
avec
terrasse et
une
les deux
petite
piliers
terrasse.
devant. Et qui est en fait toujours là, puisqu'elle a été classée en
Voilà.
1981, je crois, c'est assez récent.
Alors, à cette époque-là, moi je te parle des années, c'était en 1964-65, hein, quand même, les années lycée, on était très inquiets parce que. Alors, elle était habitée à cette époque-là
Elle est
par des gens,
toujours.
hein, oui, par des gens qui étaient des gens âgés. Et alors, on se dit, mon Dieu, quand on a vu cet immeuble qui l'a dominé, qui était sur son flanc, on s'est dit, elle va disparaître, hein, cette petite maison. Bon, ensuite, on s'est enquis de savoir. Qu'est-ce que c'était cette maison? Effectivement, elle nous dit que c'était la maison du commandeur Cazeneuve, ce qui, en plus, ajoutait évidemment
Au mystère,
au
peut-être.
mystère, extraordinaire mystère, voilà, dont nous allons parler tout à l'heure. Et c'est très très bien, vraiment, d'avoir eu cette idée de faire cette biographie donc de ce personnage toulousain.
Et à propos de cette ville-là, Christian, si tu me permets,
Je t'en prie.
si jamais cela te tente de venir y passer une nuit ou deux, je l'ai vu sur Airbnb.
Ah bon?
Donc voilà, je n'ai pas les tarifs à
Ah
te
oui, ah
donner,
oui,
mais.
d'accord. Ah oui, ça c'est excellent. D'accord, on peut donc y dormir. Voilà. Bien, alors, si tu le veux bien, Jean-Luc Doucet, nous allons consacrer quelques minutes à des annonces de livres de poésie. Alors, la semaine dernière, je pense que j'ai déjà indiqué à nos auditeurs à quel point nous étions heureux de savoir que le prix international de poésie francophone Yvan Goll 2018 avait été remis à notre amie Isabelle Lévesque pour son livre Voltige. Alors, ce prix sera en réalité remis officiellement Place Saint-Sulpice à Paris, lors du marché de la poésie. Hein. Moi, je ne serai pas là, puisque je serai d'ailleurs en Espagne ce jour-là. Mais il y a là, comme chaque année, dans le marché de la poésie, Place Saint-Sulpice à Paris, il y a là un stand de tous les éditeurs, en principe, ils sont représentés sur cette Place Saint-Sulpice au marché de la poésie. Voilà. Et vous pouvez aller vous faire dédicacer un livre d'Isabelle Lévesque sur le stand 608. Voilà, nous le dirons, nous mettrons toutes ces informations sur notre site les-poètes.fr. Isabelle Lévesque, donc, qui a fait paraître Voltige, ça c'était aux éditions L'herbe qui tremble, mais elle vient de faire paraître un livre. Alors, toujours aux éditions L'herbe qui tremble, avec Pierre Desnoz. Pierre Desnoz, c'est un vieux poète, pardon de dire ça, mais enfin, c'est un poète très consacré de la poésie contemporaine française, hein, qui était un ami de Jean Malrieu, donc il est né en 1935. Hein, voilà, né en 1935. Il est dans le Nord, il vient Dunkerque, et il publie avec Isabelle Lévesque un livre qui s'appelle La Grande Année. Alors, pour revenir d'abord à Pierre Desnoz, dans un art des passages, alors ça c'est à l'herbe qui tremble toujours, hein, il a expliqué, Pierre Desnoz, pardon, combien lui tient à cœur son travail avec les peintres, les graveurs, les photographes. Alors, ça c'est ce que l'on voit très souvent chez beaucoup de poètes. Nous connaissons Claude Barrère, par exemple, tous les deux, et nous savons à quel point Claude Barrère est aussi influencé, puisqu'il est également artiste plasticien et poète. Et c'est souvent le cas. Dans les graveurs, les photographes, peu importe qui prend l'initiative, qui la relance, il s'agit, c'est si rare, si vivifiant, d'un acte de partage. Alors, les poètes adorent ça, pouvoir faire un livre avec un photographe, avec un peintre. Voilà, il y a une complicité, une connivence. Alors, Isabelle Lévesque et Pierre Desnoz, quand ils publient La Grande Année, comme avec les mots de ses poèmes, Isabelle Lévesque aime écrire avec la lumière, elle photographie. Alors, elle photographie et j'ai le plaisir, par exemple, d'avoir des correspondances d'Isabelle Lévesque où elle m'envoie des photos comme des cartes postales qu'elle a prises elle-même. Ce sont des fleurs, beaucoup de coquelicots. Hein, c'est très, très agréable. Ma femme est enchantée quand elle a ça. Ses amis le savent qu'elle photographie et elle a invité donc Pierre Desnoz, qui lui ne dispose que de mots, à l'accompagner sur les chemins de ses images. Au fil de la correspondance, ils se sont passés le relais, des regards au souffle, des souffles au regard, une année entière, la grande année. Ils ont moins cherché à construire un livre qu'à reconnaître ce pourquoi le temps n'est pas maudit et les langages ne sont pas confinés en eux-mêmes. En collaborant, Isabelle Lévesque et Pierre Desnoz n'ont eu de cesse que d'ouvrir leur livre et de s'ouvrir à cette lumière qui est l'un des noms de ce qui les rassemble. C'est quoi la poésie? Voilà. Donc, magnifique livre, La Grande Année d'Isabelle Lévesque et Pierre Desnoz. Nous reviendrons bien entendu sur ce livre. Hein, je montre à notre invité
Superbe.
avec des photographies superbes, en particulier, là, je vois le fameux château qui est d'ailleurs sur notre site les-point.fr, en bas de la page d'accueil. Voilà, et toutes ces magnifiques photos, donc avec ce jeu un petit peu de ping-pong. Voici les fameux coquelicots dont je parlais. J'ai le plaisir aussi d'en avoir reçu récemment, là. Voilà. Donc nous reparlerons de ce livre avec l'intéressée elle-même bientôt, Isabelle Lévesque, mais je tenais absolument à en parler de manière à ce que les auditeurs puissent déjà se procurer aux éditions L'herbe qui tremble, Isabelle Lévesque, Pierre Desnoz, La Grande Année. Donc, et puis toujours d'Isabelle Lévesque, Ni loin, ni plus jamais. Alors ça, c'est aux éditions Le silence qui roule. Ni loin, ni plus jamais, c'est suivi de Salabreuil, le magnifique. Alors, Isabelle Lévesque, elle est normande. En 2017, elle a publié donc Voltige, dont je vous ai parlé, et elle écrit sur la poésie contemporaine dans la nouvelle quinzaine littéraire et dans la revue Europe. Alors, je ne voudrais pas Salabreuil, le magnifique. Je vais simplement. Et c'est très bien que un poète rende hommage à un autre poète. Malheureusement, bon, je crois que nous n'aurons pas le temps de trop en parler, mais c'est très bien cet hommage à Salabreuil. Un poète aimé, dit-elle, ne meurt pas, il renaît dans les mots du poème, il redevient ce qu'il n'a pu être totalement, accomplissant chaque promesse. Voilà. Alors, nous en parlerons dans une émission spéciale donc dédiée à Isabelle Lévesque. D'ores et déjà, retenons, ni loin ni plus jamais, aux éditions Le silence qui tremble. Voilà, je vais m'arrêter là pour ne pas trop handicapé. Le temps dévolu à ce livre important, Le magicien était un aventurier. Alors, c'est aux éditions Jeanne d'Arc. Hein.
Toujours, et c'est voilà. Le quatrième qui paraît
quatrième, voilà.
À ces éditions.
C'est un gros volume qui ne vous coûtera que 17 euros par rapport au nombre de pages. Alors, je vois qu'il est aussi, il y a quelques illustrations in fine, je pense. Oui, à la fin, vous avez quelques.
Non, il y en a un peu partout à l'intérieur du livre.
À l'intérieur. Oui. Alors, Jean-Luc Doucet, donc tu es historien journaliste. Tu es né ici, à Toulouse, et tu nous entraînes à la découverte avec ce livre de l'un de nos compatriotes. Donc, hein, je vais en parler tout à l'heure. Ce compatriote, c'est Marius Cazeneuve. C'est, alors tu vas nous en parler plus précisément, mais c'est un magicien. Ça, c'est quand même la première fois que tu parles de magicien. C'était des personnages historiques qui avaient joué un rôle dans l'histoire européenne, jusqu'à maintenant, tes personnages.
Oui, c'était d'ailleurs, il y a eu un député, enfin un homme politique de Haute-Loire, un collectionneur italien,
oui.
Le prédécesseur
ah,
de
oui,
l'empereur
collectionneur italien,
François
effectivement.
Joseph,
Oui.
Et maintenant donc
Un
un
magicien.
Toulousain, le magicien était un aventurier, le commandeur Cazeneuve. Enfin, le commandeur Cazeneuve qui s'est appelé de ce nom, après s'être appelé bien sûr Bernard Marius Cazeneuve.
Bernard Marius Cazeneuve. Alors, tu vas nous en parler, je te laisse nous dire. D'abord, tu nous expliquais que l'idée de ce livre t'était venue par...
Ben, j'ai eu la même curiosité
oui,
que toi par
oui,
cette petite
cette
villa, donc
villa.
Je me suis renseigné également et je me suis dit, c'est dommage que ce personnage-là encore soit méconnu des Toulousains, enfin, du point d'une grande partie des Toulousains. Et bon, comme dans les trois autres livres, en fait, j'ai souhaité rendre la lecture assez vivante. Et il ne faut pas s'attendre donc à la lecture d'une biographie pure et dure, style universitaire. Donc je fais intervenir, comme dans Ferdinand, comme dans Philibert Besson, un personnage de fiction qui se mêle à l'histoire et en l'occurrence qui dialogue avec le commandeur Cazeneuve et qui lui raconte un peu sa vie. Donc, peut-être, Christian, si tu veux donner un avant-goût, on pourrait lire juste les trois premières pages de ce livre, qui
Alors,
montre un peu
c'est
le...
comme les précédents ouvrages, c'est-à-dire c'est un personnage extérieur qui raconte la vie. Hein?
Dans ce cas-là, c'est un personnage extérieur qui dialogue directement avec le commandeur Cazeneuve à l'occasion d'une rencontre et qui se poursuit par un voyage en train qui les ramène de Paris à Toulouse.
D'accord. Les ombres de la rue Cromartin. Des applaudissements à n'en plus finir. Répétés de longues minutes. Le rideau est tombé. Derrière la lourde tenture rouge, comme de coutume, un homme, un artiste, regarde à travers le trou aménagé pour observer la salle traditionnellement avant que le spectacle ne commence. Pourtant là, il regarde. Bien que l'attraction, son attraction, soit terminée. Il guette les réactions, il s'en nourrit, les avale avec une faim jamais assouvie. Les amateurs d'illusions n'auraient manqué cet événement pour quelque raison que ce soit. Une soirée mémorable s'annonçait ce 24 décembre 1907. Les jours auparavant, le 294-44, le téléphone du Tétro Royal,
très tôt, oui.
Très tôt, ne cesse de retentir. On affiche rapidement complet. Seuls quelques fauteuils et quatre loges ont été gardés pour les retardataires, ceux de la dernière heure. La séance a été bien annoncée. Les différents journaux s'en sont fait abondamment l'écho dans leurs éditions précédentes. Qui aurait pu l'ignorer? Il y a une semaine, à Paris, au 42 de la rue Notre-Dame des Victoires, dans la brasserie Galopin, au bar en acajou de Cuba, un homme à l'air juvénile, presque adolescent, est assis. Il termine son cocktail dans cet établissement qui a été le premier à en proposer dès sa création en 1863. dans la salle Belle Époque, sous la verrière, qui diffuse la lumière du ciel d'hiver, entouré par les nombreux miroirs, il achève la lecture du Figaro. L'extraordinaire commandeur Cazeneuve, qui commence à intriguer tous les Parisiens et qui ne donnera qu'une unique représentation à Paris, le soir du réveillon au Tréteau Royal, fut dans sa jeunesse un grand ami de Victor Hugo, d'Alexandre Dumas et de Théophile Gautier, qui professait une grande estime pour lui. Pour la première fois à Paris, le commandeur Cazeneuve fera l'expérience de la balle de revolver sur laquelle nous reviendrons. Voilà, alors je crois que ça donne une bonne idée donc, du ton de ce livre. Hein. On pourrait, alors d'abord, ça se situe, on va quand même situer un petit peu dans la chronologie.
Ben, c'est-à-dire que donc, Bernard Marius Cazeneuve est né à Toulouse, comme nous l'avons dit.
Quelle année tu
dis ? Le 12 octobre 1839, au 20 rue des Blanchers, oui. Qui est
près de la Garonne.
Oui, près de, du port du quai Saint-Pierre. Oui. Sa famille est d'origine modeste, puisque son père, d'origine ibérique par son père et auvergnate par sa mère, exerce des petits métiers, multiples d'ailleurs. Il sera même belotier, glacier, chocolatier. Et au moment de la naissance de Marius Cazeneuve, il est tailleur de lime. Sa mère, elle, Jeanne Gazaigne, est femme de ménage domestique dans la rue Sainte-Ursule. Il est l'aîné d'une fratrie de cinq enfants, dont l'un d'eux mourra précocement. Et la mère de Bernard Marius Cazeneuve vient du village de Bondigouel, qui se situe à 5 km de Villemur-sur-Tarn et une trentaine de kilomètres de Toulouse. Et Marius Cazeneuve, on le verra d'ailleurs, il vient régulièrement pour montrer ses tours, les peaufiner, et puis avoir son premier public, peut-être. En fait, il est passionné par toutes les disciplines à l'époque. Seulement, il se rend vite compte, à l'âge de 14 ans, que sa famille a peut-être besoin de lui pour ramener un peu d'argent à la maison. Donc, il décide de quitter l'école, et sans trop savoir quoi faire, d'ailleurs. Mais de l'école, il a quand même gardé deux choses, je pense. Il a gardé le goût du spectacle, puisqu'il multipliait les forces, comme par exemple avec un de ses camarades qui, à l'heure du goûter, se soulève le pupitre de son bureau. Il sort l'orange qu'il allait manger, donc c'était 16 heures, on dira. Il commence à enlever l'écorce, et puis à la place de la chair du fruit, et bien, il tombe sur un encrier. Donc voilà. Et puis donc il a gardé aussi de l'école trois amis avec lesquels il était inséparable, dont notamment un certain Jules Léotard, qui va avoir une carrière internationale comme lui. Mais Jules Léotard, lui, pas du tout dans le même domaine, il sera trapéziste, homme volant. Effectuera des tournées en Russie, en Allemagne, en Italie, un peu partout. Et d'ailleurs, ce qu'il y a d'amusant, on pourrait dire, c'est que le vêtement de juste au corps qu'il a créé donc, dans ces années-là est toujours utilisé par les trapézistes actuels et porte le nom de Léotard. Donc, après avoir quitté l'école, sans savoir trop quoi faire, il se rend un jour voir le Cirque Oriental de Madrid, qui a fait une halte à Toulouse, comme se font souvent à cette période les cirques, les ménageries ambulantes. C'est un peu la mode. Et Marius est séduit. Séduit par le monde du spectacle à nouveau, le monde de la scène, un peu l'attrait du public. Il parvient à se faire engager comme interprète, puisque d'origine espagnole, son père lui a appris quand même cette langue relativement bien. Donc il part sur les routes avec le Cirque Oriental de Madrid, mais loin de se cantonner à devenir le seul interprète de la troupe. Il va vite bifurquer vers une autre profession, toujours dans le cirque. Il va devenir le premier écuyer de ce cirque donc oriental de Madrid. Premier écuyer parce que en fait son ami Jules Léotard, grâce à son père Paul Léotard, qui possédait une salle de gymnastique ainsi qu'une école d'équitation, l'avait formé à cette discipline. Une discipline difficile, mais qu'il avait bien acquis, parce que c'est une école relativement renommée à Toulouse, qui abritait d'ailleurs les élèves du Collège Royal de Toulouse. Donc le périple avec la troupe dure environ un an, puis il revient en France. On le trouve directeur d'un théâtre lyrique à Lyon, brièvement. Puis vraiment, c'est le retour à Toulouse, chez lui. Et là, c'est encore une nouvelle rencontre qui va décider de son avenir. Il rencontre Bartolomeo Bosco, qui est le maître turinois de l'illusion. Donc là aussi, comme il a été par l'ambiance des cirques, les différents numéros, les animaux, les jongleurs, il est subjugué par ce Bartolomeo Bosco qui lui multiplie les tours de magie avec une grande aisance et surtout une forte personnalité. Donc Bartolomeo Bosco le prend comme assistant pendant 2 ans environ et lui apprend les rudiments du métier.
La tête tranchée. Auprès de Bartolomeo Bosco, répétition après répétition, représentation après représentation, Marius Cazeneuve élargit son savoir de magicien. Le maître de Turin lui enseigne ses tours, une transmission de savoir dans le secret. L'élève se révèle particulièrement doué. Ses mains habiles commencent par manier les gobelets avec vitesse, dextérité. Remplissant à merveille son rôle d'assistant, il seconde avec aisance Bartolomeo Bosco, l'aventurier de la magie qui apeure les plus sensibles par ses mises en scène spectaculaires. Victor Hugo aime décrire le décor dont s'entoure l'artiste italien. Sans doute les détails lui rappellent-ils le monde spirite. Le magicien turinois parvient à capter aisément l'attention des simples curieux venus assister à ce spectacle, parfois sans trop de conviction, souvent même avec un soupçon de défiance. Bartolomeo les soumet à la volonté de Bosco. Même les plus réticents sont captifs de son emprise. L'obscurité totale absorbe la salle. Sitôt le silence pèse de tout son poids, respectueux. L'assistance est déjà envoûtée. Le peuple de Paris, on lui a dit, on lui a raconté ce que fait cet homme au physique si puissant, avec sa forte corpulence, ses deux yeux profonds, sa grosse tignasse en bataille. Oh, si vous l'aviez vu manier l'art du mystère le plus sombre, autant que celui de l'escamotage, en apparaissant sur une scène drapée de tentures noires où des torches allumées font jaillir des recoins les plus obscurs des têtes de mort. Sa seule vue met mal à l'aise le public. Sa présence domine le spectateur qui s'attend presque à se faire avaler dans les entrailles de la terre. Il a déjà mis ses genoux à ses genoux, les Toulousains. Il soumet les Parisiens, raconte avec ferveur Victor Hugo à son jeune visiteur. Voilà. Alors là, tu vas quand même jusqu'à faire parler Victor Hugo.
Je vais le faire parler encore un peu plus, peut-être. Parce que, enfin, on y reviendra un peu tout à l'heure sur
Oui.
Victor Hugo. Parce que pour l'instant, donc, Il fait son apprentissage auprès de Bartolomesco pendant 2 ans environ. Et en 1861 à peu près, 1862, il se lance seul sur scène. Il commence modestement par Bondigou. Bondigou, où il fait des tours particulièrement remarqués dans son village, enfin dans le village de sa mère. Par exemple, il brise des coquilles des œufs et de la coquille, il extrait des pièces d'or. Il convoque l'assistance pour 20h, 20h15, 20h30, il n'est toujours pas là. Le public commence un peu à s'énerver. Pour qui se prend-il celui-là? On le connaît depuis qu'il est tout petit. Et en fait, il surgit sur scène et il leur dit, mais de quoi vous plaignez-vous? Il n'est que 8 heures. Tout le monde regarde sa montre, il n'est que 8 heures. Il exerce aussi un peu ses pouvoirs de suggestion, toujours à Bondigou, en faisant accoucher, j'allais dire virtuellement, oui, surtout, un homme qui était pourtant d'origine robuste, fier de lui, et qui, sur scène, manifeste toutes les douleurs de l'enfantement, comme jusqu'à la délivrance, quoi. Mais
C'était de l'hypnose.
il a du mentalisme, de l'hypnose, de la suggestion, mais surtout pas de sorcellerie. Il répétera, non, je ne suis pas un sorcier tout au long de sa vie. En fait, en 1863, il est à Nice, puis il est à Vichy. Et à Vichy, c'est le début de la. Vichy, c'est le début de la mode des villes thermales, villes d'eau, dans lesquelles se rejoignent tous les grands de ce monde. Il se produit devant Napoléon III, qui se trouve fort étonné d'ailleurs de ce jeune homme-là qui ose un peu tout. Et il invite aux Tuileries à se produire en 1863, devant la cour, devant ses proches. C'est un succès. Et d'ailleurs, il se produira peu après devant toutes les cours d'Europe et d'ailleurs, devant le roi des Belges, le premier roi des Belges, Léopold Ier par exemple, devant les rois d'Espagne et du Portugal, qui eux seront sidérés de voir un oranger pousser devant eux, voir les fleurs éclore et de ces fleurs jaillir des oranges toutes mûres, prêtes à être dégustées. En fait, il est toujours attiré par la célébrité, donc le pouvoir, on peut dire, mais il n'en oublie jamais Toulouse. C'est une de ses particularités, il fera des va-et-vient entre les grands de ce monde et les plus petits à Bondigou ou à Toulouse. Voilà. Ensuite, pendant la guerre de 1870-1871, dans la guerre franco-prussienne, il va manifester un autre de ses aspects, et c'est là, on peut dire, où il devient l'aventurier. Il lève sur ses propres deniers un bataillon, avant d'intégrer comme capitaine l'armée régulière. Il devient officier de santé, se distingue au combat, est pressenti pour avoir la croix. Et son épouse, c'est-à-dire son épouse, c'est son ancienne assistante, Alice, de son nom de scène, qui était appelée Alice la Sibylle. Donc son épouse, qui est l'épouse en 1866, est à ses côtés et elle multiplie les actes de secours auprès des blessés, les réconforte comme elle peut, tandis que lui se sert aussi de son ambulance privée pour les sortir du front et les mettre à l'abri.
C'est quand même qu'il avait certains moyens financiers. Il avait
C'est-à-dire que
déjà
il avait déjà certains
réussi.
moyens financiers grâce à ses spectacles
Oui,
devant les grands de ce
devant les grands de
monde.
ce monde. D'accord.
Les grands de ce monde qui, à chaque fois, lors de sa
Oui.
prestation, ne manquaient pas de le décorer.
Oui.
Ce qui en fera d'ailleurs sans doute l'homme le plus décoré de France à un moment. Il arborera d'ailleurs sur ses tenues et sur ses photos qui le représentent une collection très impressionnante de médailles qui lui couvre carrément tout le côté gauche de son torse. Donc, après la guerre de 1710-1711, il poursuit sa carrière toujours de magicien. Et en 1874, il est pris d'une colère, je ne sais pas si elle est subite, mais enfin du moins, il est pris d'une colère contre les adeptes du spiritisme. Alors, il crée la Ligue anti-superstitieuse et anti-charlatanisme, qui regroupera pas plus de 5000 adhérents, juge qui c'est largement suffisant. Donc, il y avait la présidence d'honneur est confiée au Shah de Perse, Nasser ed-Din Shah, et c'est là où on revient un peu à Victor Hugo, c'est qu'il réussit à enrôler dans cette ligue anti-superstitieuse Victor Hugo lui-même. Oui. Alors que Victor Hugo, comme on le sait, était un large adepte des tables tournantes, notamment à Jersey lors de son exil.
Oui, tout à fait.
Alors on peut l'expliquer quand même par l'exil qu'il a vécu de façon très difficile et la mort de sa fille Léopoldine qu'il avait profondément marqué et qu'il n'a jamais oublié. Chose qu'il a en plus, la mort de Léopoldine qu'il a appris, je crois, 3 jours plus tard par la presse. C'est ça. Donc, cet épisode-là de la Ligue anti-spirit, qui s'appelle aussi l'Institut du Progrès, il multiplie les noms pour le qualifier.
Et alors, le président était le Shah d'Iran.
Oui, le président d'honneur, parce que le président était quand même lui-même.
Oui, d'accord.
Parce que le commandeur Cazeneuve a quand même manifesté une certaine... Je ne voudrais pas être méchant, parce qu'il est quand même attachant, mais une certaine prétention. Je pense que c'est sans doute lié au métier de magicien aussi, au métier du spectacle, au métier de la scène.
Il faut un peu de mégalomanie dans ce métier-là.
Oui, donc, d'ailleurs là dans ce, je peux peut-être te faire lire ceci, parce que on verra bien que c'est lui qui a tout dicté comme, comme mode d'emploi pour être au sein de cette ligue.
Alors, il s'agit de la Ligue anti-superstitieuse. La Ligue anti-superstitieuse est surtout votre chose,
oui,
votre
là,
objet.
C'est Isidore, le personnage de fiction qui lui parle.
D'accord.
C'est leur dialogue.
D'accord. Celui que vous avez façonné seul, de vos mains certes, si habile, enfin me semble-t-il, prononce Isidore Fidelio, s'attendant à une vive réaction de son fondateur. C'est le calme qui prévaut. Sans se préoccuper des reproches concernant sa mainmise sur l'association, Marius Cazeneuve préfère s'amuser des mots à l'apparence flatteuse. Il est heureux que vous reconnaissiez l'habileté de mes mains, leur dextérité tout autant que l'agilité de mon cerveau. Il se redresse sur son siège avant d'ajouter avec une candeur presque naturelle « Mais j'ai bien entendu votre allusion. Me penseriez-vous manipulateur ?» Isidore Fidelio le regarde à présent droit dans les yeux. Ses pupilles bien dilatées, d'un gris presque translucide, affrontent celles de Marius Cazeneuve, noir, d'un noir profond, donnant un regard que peu parviennent à soutenir. « Oui ?» finit-il par lâcher avec aplomb. L'illusionniste se satisfait d'avoir devant lui un adversaire qu'il sent aimer, manier les mots et n'a pas peur. Votre mérite est de ne pas vous laisser impressionner par moi comme beaucoup d'autres. Je disais que cette ligue anti-spirit est votre objet. Monsieur Victor Hugo m'a montrez les statuts de votre association qui comportent des articles surprenants. Vous trouvez, s'étonne avec ironie Marius Cazeneuve, Il me semble que tout est une clarté telle que les textes peuvent être compris des esprits les plus obscurs. Vous ne trouvez pas? Effectivement, des dispositions simples et radicales, peut-être un peu trop. C'est donc que vous les avez compris. Ne résiste pas à rajouter le commandeur n'appréciant guère le mépris. J'ai compris que l'Institut de progrès se voulait être un instrument pour la diffusion de vos idées, pour la liberté, s'emporte légèrement l'illusionniste dont la patience s'émousse. Tout y est dit en l'article 1. Il s'agit de combattre la superstition, poursuit-il avant de le détailler avec une certaine gourmandise. Elle entrave par ses préjugés. La marche du progrès et de la civilisation empêche le développement de l'esprit humain. Ceci, vous l'avez bien compris, ce sont les termes mêmes de l'acte fondateur de notre société, celle que nous avons créée à Toulouse. C'est pour moi une satisfaction immense que de m'être lancé dans ce combat. Dans ces combats, plutôt, si je me permets, le pluriel s'impose, précise Isidore Fidelio en poursuivant. Comme vous l'avez remarqué, je le suppute, je possède moi aussi une mémoire sensiblement aiguisée. Vous vous attaquez aux préjugés, à la superstition, certes, mais si je reprends bien les termes de la création, ce ne sont pas les seuls diables que vous combattez. Marius Cazeneuve, comme pris d'une réaction allergique, se met à crier. Diable, oui, il s'agit bien des démons, des diables qui gangrènent les hommes, et que trouvez-vous à redire de vouloir mettre à bas ces fléaux qui corrompent? Oserez-vous excuser les jeux de hasard? Oserez-vous défendre le duel? Oserez-vous prendre le parti de l'abus des alcools? Oserez-vous justifier le suicide?
Oui, donc il faut dire que les mesures sont assez drastiques. Parce que par exemple, tout membre de la Ligue antisuperstitieuse qui sera vu deux fois en état d'ébriété en public sera exclu. Donc,
Il y a du grand monde maintenant.
pour quelqu'un qui vient du quartier Saint-Pierre, quand on connaît maintenant, ça risque d'être un peu délicat.
Alors, il y avait comment dirais-je, ce puritanisme aussi dans
C'est puritanisme un
oui,
peu.
moral, cette espèce de moralisme quand même, hein?
Oui, que j'ai du mal à comprendre d'ailleurs
Oui,
de sa part.
oui.
Parce que je ne vois pas pourquoi s'être tout d'un coup engagé dans une lutte aussi morale, j'allais dire, ou
Oui,
de
oui, 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 oui,
pudibonderie.
oui, oui, c'est rigoureux, oui.
Voilà.
Oui.
Donc ensuite, l'un de
Bon,
ces
pour un
films.
fantaisiste complet, quand même.
C'est ça, un
Hein?
fantaisiste complet, parce que donc
C'est une
on va peut-être,
contradiction, un
le
peu.
temps passe,
Oui,
on va
oui,
peut-être quand même
oui,
détailler, enfin
oui,
parler de
oui.
deux ou trois de ces tours qui
Bien
l'ont
sûr,
rendu très célèbre.
bien sûr.
Je sais qu'il les a après fait comme plaisanterie un peu partout, dans la vie civile aussi bien que sur scène. En fait, donc l'un de ces tours les plus spectaculaires a été de sur scène, et là, les jambes écartées, avec sa cape noire, de sortir tout à coup un sabre effilé, de le brandir devant le public, et demander un volontaire pour qu'il lui tranche la tête. Bon, personne n'a vraiment osé se lever pour aller lui trancher la tête. Alors donc, c'est lui-même qui a décidé de se trancher la tête. Et il a fait le tour de la salle en brandissant sa tête à bout de bras. Il a refait cette expérience, d'ailleurs, cette expérience, oui, parce que pour lui, tout est expérience. Ce n'est pas de la magie, ce sont des expériences qui mêlent la physique, la chimie. Il aime la science. Et il avait refait ce tour dans un restaurant à Bordeaux, ou dans un salon, il était avec des amis. Et il a fait à la fin du repas, après quelques bouteilles de Bordeaux d'ailleurs, il demande une bouteille de champagne au serveur. Et lorsque celui-ci revient, il les trouve en train de s'arracher presque les chemises, en train de s'invectiver, pardon. Et tout d'un coup, il voit le commandeur Cazeneuve trancher la tête de son ami et la poser sur le plat. Alors là, follement, il part en criant, chercher le directeur de l'établissement et tout. Et lorsque tout le monde parvient dans ce petit salon, bien, tout le monde est en train de rigoler du tour qu'ils viennent de jouer. Oui, l'un de ces autres tours qui est remarqué, c'est justement celui dont on parlait tout à fait au début et qui devait faire à Paris lors de ce spectacle au Traiteur Royal, c'est celui de la balle. C'est-à-dire qu'il choisit 3 ou 4 personnes au hasard dans la salle, leur fait charger les pistolets, leur fait mettre une marque sur chaque balle et leur demande de faire feu. Et là, on le retrouve une fois la poudre dissipée, avec une balle coincée entre les dents et les 3 autres tenues au bout des doigts. Voilà. D'ailleurs, une expérience qu'il rajoute aussi lors de sa tournée qu'il a effectuée en 1876-1870 aux États-Unis, où il a été capturé par les Sioux. Et donc, il a réussi à s'échapper, toujours grâce à ses talents de prestidigitation. Il était à terre, un Indien s'apprêtait à lui fracasser le crâne avec un tomahawk, jusqu'à ce qu'il lui fasse disparaître des mains. Le temps que les Indiens arment leurs fusils et lui tirent dessus, la scène s'était répétée. Il avait une balle entre les dents, les 3 autres balles tombaient à ses pieds. Mais alors là, toujours pareil, on peut douter un peu parce que c'est lui qui raconte ça. Et il aime raconter un peu sa vie, des fois romancée.
Il a été aux États-Unis.
Il a été aux États-Unis.
À l'époque, vraiment, donc c'était au milieu du 19e siècle, ça.
1876-1877. Il avait participé à l'inauguration de la statue de Lafayette. Il était perché sur son cheval. Et avec une allure très digne. Mais ensuite, je crois qu'il en a gardé un souvenir un peu mitigé de cette tournée, puisqu'il n'a peut-être pas eu, bien qu'il dise le contraire, le succès qu'il avait escompté. Il n'avait pas les mêmes méthodes de travail, on dira, que les illusionnistes américains. Et la frontière de la langue, il faisait un peu tomber à plat ses jeux de mots et tout ce que l'on veut. Et surtout, rien que pour attirer le public, il lui distribuait des photocartes qui étaient très en vogue à l'époque, tandis que les magiciens américains, eux, distribuaient aux dames des bouquets de fleurs, des chocolats, etc. Ce qui était quand même beaucoup plus attirant que de voir la tête du commandeur Cazeneuve sur une petite photocarte. Alors, pour essayer quand même de faire remonter, j'allais dire, son taux d'audience, il choisit le jour où doit être dynamité un énorme rocher qui bloque plus ou moins l'entrée du port de New York, le rocher du diable. Et à l'heure venue, là où l'explosion doit avoir lieu, qui nécessite, je crois, 15 000 livres de poudre, enfin, c'est quelque chose d'énorme. Tout d'un coup, on voit surgir une pluie de tracts qui envahit toute la foule venant du ciel, et c'est le commandeur Cazeneuve qui est juché sur un ballon dirigeable qui est en train d'avancer tout le monde tandis que l'explosion a lieu et les tracts se mêlent aux débris de rochers. En fait, si on veut continuer chronologiquement, nous n'aurons pas le temps de tout voir parce qu'en 1878, il prend sa revanche, je dirais, sur l'école qu'il a dû abandonner relativement jeune et dont il a gardé quand même un très bon souvenir et qu'il aurait souhaité vouloir poursuivre. En 1878, il est convié, alors qu'a lieu de l'exposition universelle à Paris, il est convié au grand amphithéâtre de la Sorbonne, où le ministre de l'Éducation nationale, de l'Instruction publique, pardon, de l'époque, a fait venir, ou commandé, ou invité, selon les cas, tous les instituteurs de France. Donc ils sont dans les 400, devant lui, et c'est lui qui leur détaille que les mécanismes du spiritisme, tout ça, avant de se livrer à quelques expériences. Et c'est un succès, puisque tous les quotidiens, les journaux qui étaient présents, qui avaient des tirages très très importants, comme Le Monde illustré, lui demande de réitérer toutes ses expériences, par exemple le monde illustré, dans la salle de rédaction, devant les journalistes, et lui consacre toute une page. Donc après, si l'on veut revenir sur l'un des épisodes, enfin venir rapidement sur l'un des épisodes les plus marquants de la vie du commandeur Cazeneuve, c'est 1886. Il se remet, on dira, de son troisième tour du monde, avant de recevoir un ordre de mission plus ou moins secret pour se rendre en mission diplomatique à Madagascar. Le but est de renforcer la présence française par rapport à la domination anglaise qui ne cesse de s'accroître. Donc il part là-bas. J'allais dire, c'est une épopée déjà pour lui. Donc il va rejoindre d'abord Tamatave, le port de Tamatave. Sitôt arrivé, il se sépare de son secrétaire qui l'a pris en train de boire le vin qu'il avait amené et de faire les yeux doux à beaucoup de femmes malgaches dès son arrivée sur le port. Donc il reste un certain temps quand même à Tamatave avant de pouvoir partir à Tananarive. Il fait la connaissance de la princesse Juliette, qui est une femme vraiment exubérante, ronde, exubérante, joyeuse, et sa demeure est le lieu de passage obligé de tous les visiteurs qui se rendent à Madagascar. En fait, il prépare son départ pour Tananarive, donne quelques spectacles pour faire connaître déjà ce qu'il est capable de faire. Et tout cela dans un but bien précis. Il sait que la rumeur va très vite, plus vite qu'il ne sera d'ailleurs à Tananarive ou Antananarivo. Ainsi, il fait une séance devant les autorités, dont le résident Charles Lemierre de Villers, le résident français à Madagascar. Ensuite, devant devant le gouverneur du fort de Swaziram, qui le convie également sur le chemin à venir s'arrêter. Là encore, un grand succès. Puis il arrive à Tananarive. À Tananarive, il se fait distinguer dès le lendemain. En faisant preuve d'un acte de bravoure et de courage que c'est lui toujours qui le raconte. Un quartier de la ville est en flammes et c'est lui avec deux de ses hommes qui parvient à le maîtriser. De suite, la reine le remarque et l'invite au palais royal, au palais de la reine, le Rova. Alors, dès lors, les relations vont se nouer, des relations amicales, des relations de
Avec la reine.
confidence avec la reine Ranavalona III, qui a 24 ans. Lui, on est en 1886, il est né en 1839, donc il y a une certaine différence quand même. Et la reine est mariée au prince Rainiyala. Ah là là, tout ceci est très compliqué, ces noms malgaches sont très compliqués.
Je crois qu'il y a Claude qui connaît.
Oui, je sais. Rainiyala Rivoni, qui lui est surnommé par les villageois comme le pire des caïmans que la grande île ait connu. Donc il multiplie les tours devant elle. Et de cette amitié, de cet amour, on ne sait comment le qualifier en fait. Il y a lieu un pacte de sang entre eux, le Fanrida. Et devant un vieux sage dans une hutte se déroule cette cérémonie qui en fait n'aura jamais lieu en principe, n'aurait jamais lieu entre un étranger et puis une reine surtout enfin une femme malgache tout d'abord, et une reine, ceci paraît inconcevable. Si tu veux d'ailleurs peut-être lire
Oui,
juste un peu le
il
résumé de
faut
cette scène qui est...
juste lire les dernières lignes peut-être parce que
Oui, je
malheureusement
sais que
nous
nous sommes
sommes
pris par
pris
le
par le
temps.
temps. Alors, avec une discrétion presque guidée par la peur de représailles, n'hésite-t-il pas à le qualifier de pire recueillement, ce que tu disais, hein, que le mauvais esprit ait jeté sur l'île. Puis son visage change, il est rayonnant en nous parlant de la reine de Ravalona III. Pour des Malgaches, est-elle tour à tour la rose des roses, la rose de bonté, la grâce divine, la sœur du soleil, quand Reni la i arrivoni,
C'est le nom de
hein,
son
je
premier
pense que ça ne se
ministre,
prononce pas
Henri.
du tout comme ça d'ailleurs, parce que je crois qu'on ne prononce pas les consonnes, enfin, ou les voyelles, pardon. N'attire guère à la sympathie et se montre particulièrement difficile à aborder, tant Ravalona III symbolise douceur et sensibilité, conclut pour très peu de temps et avec une certaine vibration dans la voix, le magicien diplomate de Madagascar. Voilà. Alors, on va peut-être finir sur cette dernière phrase.
Oui, donc cette affection, cet amour avec Ravalona III va entraîner un peu son départ précipité de l'île. Les Anglais ne manquent pas de répandre le bruit qu'il est devenu son amant. Donc il
Ça peut
retourne
être
en
dangereux.
France, il retourne en France, un peu dépité d'ailleurs, puisque sur le plan de politique, il a rempli sa mission. Et il s'attend à recevoir la Légion d'honneur qu'on lui a promis à moult reprises. Et ce sera d'ailleurs la seule distinction qui lui manquera. Et ça va un peu l'attrister jusqu'à la fin de sa vie. Et il reverra juste une fois, sans doute, officiellement du moins, la reine Ravalona III, lors d'un passage qu'elle fera à Toulouse en 1901. Ils se retrouveront, elle venait d'Arcachon en train, il a grimpé en chemin, et ils se sont retrouvés pour discuter au buffet de la gare. Si on l'écoute parler, ils étaient tous les deux. Dans la réalité, il y avait tout un
Oui,
aéropage autour.
je m'en doute. Oui. La reine de Madagascar à Toulouse, donc Gare Matabiau avec le commandeur Cazeneuve.
J'ai
Belle
peut-être été un peu
image.
long,
Oui.
mais c'est un personnage qui
Oui.
nécessite beaucoup. Il a tellement fait
Il meurt
de
en quelle année,
réalisations
Charlie?
assez diverses que.
Il meurt en quelle année?
Eh bien, il meurt en 1913.
1913.
Son cortège a été
Oui,
suivi alors par
oui.
toutes les délégations des associations auxquelles il
Oui.
appartenait, comme les Amis de Toulouse. Et puis, paradoxalement, son corps sera, on dira, oublié au dépositoire.
Ah bon?
Voilà, et finira dans une fosse commune.
Le magicien était un aventurier de Jean-Luc Doucet aux éditions Jeanne d'Arc, un livre passionnant sur cette vie de ce Toulousain très méconnu, hein,
Trop
trop
méconnu.
méconnu et qui est totalement, lui aussi, c'est une vie assez rocambolesque quand même. Hein.
Ton émission
Oui,
s'appelle
un peu,
lespoètes.fr et chaque fois je viens avec mes héros et je pense que ce sont des
oui, ce
poètes.
sont des poètes, tout à fait.
Et on pourrait
Voilà.
peut-être formuler un rêve, c'est que cette villa
Oui,
Gavès, je ne sais par quel miracle, devienne un musée
devienne un musée
du commandeur
du
Cazeneuve.
commandeur Cazeneuve. Sur cette bonne parole, merci beaucoup, donc Jean-Luc et Claude et moi, nous vous souhaitons, chers auditeurs, une excellente soirée à l'écoute de Radio Occitane. Nous vous disons la semaine prochaine à 17h.